Professeur Dubois, vous venez de sortir le livre Alzheimer, toute la vérité sur la maladie du siècle. La maladie du siècle, vraiment?
Oui, alors dans ce livre, j'ai voulu justement expliquer ce qu'était que cette maladie. Je vous dirai après pourquoi je pense que c'est la maladie du siècle, et apporter des éléments d'éclairage avec des mots simples pour expliquer ce qu'est la maladie, ses symptômes, les problèmes qu'elle pose, les lésions qu'il y a, et puis répondre à ces questions que les gens se posent et me posent souvent sur qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi elle est-elle aussi fréquente aujourd'hui, est-ce qu'elle est génétique, enfin voilà, plein de questions que se posent les gens et pour lesquelles il n'y a pas de réponse, à mon avis, bien formulée, parce qu'il y a beaucoup de sottises qui courent sur les réseaux sociaux, et je crois qu'il était important de clarifier, finalement, de vulgariser, d'expliquer ce qu'est cette maladie. Voilà. Alors, pourquoi la maladie du siècle? Eh bien, parce que je crois que c'est la maladie du siècle, dans la mesure où la population mondiale va aller en vieillissant et va arriver à l'âge où la maladie devient, j'allais dire, fréquente, tout au moins non rare. En effet, les projections montrent que, à l'aube des années 2050, la plupart des pays dans le monde aura une population âgée de plus de 65 ans supérieure à 20%, sauf l'Afrique. On a même des simulations qui montrent que aujourd'hui, au niveau mondial, il y aurait un peu plus de 40 millions de gens qui seraient touchés par cette maladie. En 2050, c'est-à-dire dans pas longtemps, dans 30 ans, ça va être 150 millions de gens qui seront touchés par cette affection. Alors, je ne veux pas faire du catastrophisme, mais il faut prendre conscience de cette réalité, parce que ça va peser, bien sûr, sur le plan individuel et familial, mais ça va peser aussi sur les sociétés occidentales. Il va falloir que on trouve des solutions et qu'on commence à réfléchir dès maintenant à la meilleure façon d'aborder ce qui peut être considéré comme un véritable tsunami. Et c'est dans cela que je crois que c'est effectivement la maladie du siècle.
On parle beaucoup aujourd'hui de fake news. Il y a vraiment beaucoup de fake news autour de la maladie d'Alzheimer.
J'ai fait un peu la revue des réseaux sociaux et des sites internet. Alors, entre les tests diagnostiques, entre les conseils de prévention alimentaire, entre les choses qu'il faut faire dans sa vie pour empêcher la maladie ou voire même guérir la maladie, les bras vous en tombent. Enfin, on est absolument ahuri par ce tissu de bêtises qui est colporté et qui vous annonce des guérisons. Des guérisons. J'ai vu que l'on pouvait guérir la maladie, je crois, en prenant de l'huile de coco ou en mangeant des grains de grenade. Voilà. Donc je crois qu'il était important de dégonfler tout ça et de voir tout ce qui reste une fois qu'on a éliminé toutes ces bêtises. Voilà, il reste des choses très intéressantes, mais il reste aussi beaucoup de choses à faire parce que le bilan sur le plan tout au moins des traitements modernes, des traitements actuels, est relativement peu satisfaisant.
Et justement, venons-en, la recherche, les traitements, le dernier volet, le troisième volet de votre livre est consacré à l'espoir. Pouvez-vous nous en dire plus?
Alors, la situation aujourd'hui de ces médicaments qui sont en développement et qui visent les pistes connues de la maladie, c'est-à-dire la piste amyloïde et la piste tau, le bilan de ces médicaments développés chez des malades est actuellement décevant. Alors, par rapport à ça, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi, finalement, les résultats sont-ils décevants? Eh bien, une des réponses possibles est que les médicaments sont essayés peut-être trop tardivement chez des patients trop avancés dans leur maladie. Une autre explication serait peut-être que les pistes que l'on explore ne sont pas les bonnes. Voilà, donc il faudrait peut-être reconsidérer la façon de développer ces médicaments et une hypothèse serait de les essayer à des stades plus précoces car aujourd'hui on peut repérer les lésions même chez des sujets normaux. Le problème, c'est que et c'est fondamental, le fait d'avoir des lésions ne suffit peut-être pas à déterminer la survenue ultérieure de la maladie. Donc, on est, je dirais, à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on commence à envisager la possibilité de traiter les gens très très tôt, puisque ces médicaments bloquent les lésions, donc c'est un point très positif, qu'il faudrait à ce moment-là peut-être se mettre plutôt dans une stratégie de prévention, c'est-à-dire de repérer des gens avant qu'ils aient les symptômes. Mais, et le point est fondamental, le fait d'avoir des lésions ne suffit pas à déterminer qu'on développera la maladie. Donc il faut maintenant que l'on travaille sur quels sont les facteurs associés qui vont permettre l'éclosion de l'affection. Voilà, donc, vous voyez, il y a tout un champ de recherche. Je dirais, c'est un peu de la science-fiction encore, mais il faut se mettre dans cette situation parce que nous avons aujourd'hui des médicaments qui bloquent les lésions. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. On peut arrêter le processus pathologique. Malheureusement, quand on étudie ces médicaments chez des gens avancés dans leur maladie, on n'a pas l'effet attendu sur les symptômes. Alors peut-être qu'il faut aller avant.